Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h05, de retour dans les grandes gueules du sport. Votre rendez-vous, vous le savez, le samedi, le dimanche de 9h à midi. On vous souhaite une très très belle année 2025. Merci de votre fidélité à RMC. Merci de votre fidélité à cette émission. On vous souhaite plein de bonnes choses. Avec nos GG ce matin, Christophe Cessieux, Fred Weiss, Julien Beneteau et Pascal Duprat. Dans quelques instants, Antoine Camboiré sera notre invité exceptionnel. 10h30, l'affaire Brice Samba à Lens. Alors que les deux clubs étaient tombés d'accord, les Sang et Or refusent pour l'instant de vendre leur gardien de but à Rennes. On va tout vous expliquer. Et puis à partir de 11h, Victor Wembanyama. Oui Fred, nous allons parler de basket. Victor Wembanyama qui vient de fêter ses 21 ans, qui vient de disputer son 100e match en NBA. Et pour l'instant, il est en avance sur toutes les grandes stars de ce jeu, toutes les grandes stars de ce sport. Est-il déjà entré dans l'histoire, Christophe? Déjà une petite sensation?
Parce qu'il y a trois stats, les basketteurs, ils nous feraient des statues pour ces mecs-là. Attendons un peu, l'histoire, c'est pas rien quand même, Fred.
Bah, on va définir l'histoire.
Voilà, définissons l'histoire, définissons ce qu'est l'histoire et quels sont les joueurs qui entrent dans l'histoire.
Un impact incroyable quand même, tu peux le constater ça.
Au niveau des stats, parce que j'ai pas encore vu San Antonio remporter de titre NBA depuis qu'il est là.
Mais je crois que t'étais pour la construction.
Ah mais non, la construction, donc, tu construis l'histoire, mais là t'es pas au bout de l'histoire.
Non, mais je suis pas au bout de l'histoire, mais la
construction. Ah oui, non,
c'est le début de l'histoire.
Merci Christophe, c'est de ma faute, mais je voulais juste comme ça lancer un petit peu le débat, ce sera à 11h. Mais merci beaucoup, vous nous avez mis en appétit pour ce débat sur Victor Wembanyama à partir de 11h. Un ami de cette émission est avec nous, Antoine Camboiré, dans les grandes gueules du sport. Bonjour Antoine.
Bonjour à tous.
Salut Antoine. On est ravis.
J'ai quelques copains là-dans l'équipe.
Absolument. Tu les connais tous. On est ravis de t'accueillir ce matin dans cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce début d'année. Alors c'est vrai que tu as beaucoup fait parler de toi cette semaine. On va y revenir. Mais tout d'abord, Antoine, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour 2025?
La santé. Moi, j'ai toujours la santé, une santé de fer, parce que, en plus, quand on avance en âge, là, nous, les sportifs de haut niveau, là, je suis un peu cassé de partout. Donc, voilà. Mais pour les proches et tout, surtout la santé, puis normalement, le reste, ça suit, quoi. Voilà.
Est-ce que tu continues, justement, tu parles de santé, de t'entretenir physiquement?
Ah, non, ça fait, alors, j'ai des gros soucis de, on va pas parler de ça, mais voilà, donc, je dois faire deux prothèses, là. Genou droit, genou gauche, j'ai des soucis, donc, au niveau des genoux, de partout, là. Donc, pour aller rejoindre Julien, là, sur les parcours de golf,
c'est un peu compliqué. Pour swing, c'est ce que j'allais dire.
Ça te gêne pas, tu peux encore jouer.
Si, au quotidien, si. Là, donc, tu prends des anti-inflammatoires, là, même pour marcher, oui, ça fait, mais bon, voilà, faut faire avec. Et puis, j'attends qu'on ait un petit break. Ça aurait pu là être le cas là, il y a, et puis avec
les frais de faire opérer la semaine dernière en fait.
je suis pas passé loin mais voilà.
Et finalement non, c'est bon, donc on repousse à plus tard. Voilà, c'était voilà, le petit point santé avec Antoine Camboiré. Alors déjà, d'un point de vue sportif, Antoine, hier ton équipe a arraché le nul à Lille, un partout, une très belle performance et un point qui fait du bien. Alors même si quand on est entraîneur on joue tous les matchs pour les gagner, mais est-ce que tu t'attendais quand même à offrir une si belle résistance face à une équipe très bien classée de notre championnat?
Ben, Pascal va pas me contredire, mais quand on démarre un match, même si on joue contre le Real Madrid, tu le joues pour le gagner, sinon on se déplace pas. Donc voilà, donc, mais on savait que Lille en ce moment donc est injouable. Lille marche sur l'eau. On a la chance d'avoir le meilleur entraîneur du moment avec Didier Deschamps, avec Bruno Genesio donc à la tête de cette équipe qui fait d'excellents travail. Donc on savait qu'on allait souffrir, que ça allait être compliqué. Mais voilà, donc on est arrivé là-bas avec nos armes. Voilà, il fallait être discipliné, il fallait être bien concentré parce que vous avez en face David, qui est le meilleur buteur du championnat, avec 11 buts sur 15 matchs. Et puis surtout, donc, je crois qu'il a fait 17 matchs, 17 buts. Hein. Donc c'est assez remarquable. Donc il fallait donc le faire en sorte qu'il reste muet. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on a pu surtout après donc avoir été mené au score au plus mauvais moment, juste avant la mi-temps. On a été capable surtout donc de rester costaud, rester donc concentré sur notre match là, et puis bon là, revenir au score, j'allais dire logiquement. Voilà, on aurait pu faire plus, mais en tout cas, on est content du point du nul, là, avec beaucoup de caractère, une équipe avec beaucoup de tempérament.
Bon, en tout cas, félicitations pour ce match nul hier, donc face à Lille, parce que c'est difficile, tu le rappelais, d'aller prendre un point là-bas. Bon, passons maintenant, évidemment, à cette histoire, cette semaine. J'ai pas envie de l'appeler l'affaire de la semaine, mais c'est vrai qu'on a beaucoup parlé de toi, Antoine. Tu étais remonté en conférence de presse. Pour tous ceux qui n'ont pas suivi, je résume en deux mots, c'était jeudi avant le match, donc face à Lille. Tu t'es présenté devant les médias et tu avais un message à faire passer après la fin d'année difficile que tu as traversée. On réécoute ce que tu disais, c'était jeudi en conférence de presse.
Excusez-moi, mais donc, je vais vous demander de ne pas m'interrompre. J'ai pris une décision aujourd'hui, vous allez vite comprendre pourquoi. Il faut que vous vous remettez en question aussi, vous les journalistes. Ça, c'est mon point de vue. Vous n'allez pas être d'accord, mais ça, je m'en fous un peu. Ce qui m'embête beaucoup, c'est que vous avez été tous unanimes et surtout catégoriques sur le fait qu'aujourd'hui, je ne serai plus l'entraîneur du FC Nantes. Tous ici dans la salle. J'aurais voulu moi attendre donc de vous soit donc des écrits comme quoi donc on s'est trompé parce que vous êtes complètement planté. Mais il n'y a eu rien eu, pas de coup de fil, au moins pour s'excuser, au moins pour expliquer. Pour moi, ça ne peut pas se passer comme ça parce que si je reste là, je vous le dis, je vais être désagréable, je vais même être méchant parce que donc il y a des choses, mais j'ai pas envie d'être là.
Voilà, tu n'as pas envie d'être là. D'ailleurs, tu es parti. Tu n'avais pas forcément envie de répondre aux questions des journalistes. Est-ce que, voilà, dimanche matin, après un nul face à Lille, est-ce que tu es toujours fâché, Antoine ?
Non, mais je suis pas fâché. Dès le début, j'étais pas fâché. Hein. Je suis venu d'ailleurs parce que si je suis fâché, les gens ils vont le voir. Hein. Ouais, donc, il vaut mieux pas que je sois fâché. Donc, je suis allé tranquillement. J'ai expliqué ce que j'avais à dire. Parce que donc voilà, il y a des choses que j'ai pas acceptées. Pas le fait que on parle de moi. J'ai vu, il y a plusieurs copains qui m'ont appelé en rigolant en disant après la défaite contre Brest, la semaine qui a suivi là. Donc et puis surtout bon, on a fait une semaine avant le match de Coupe de France. Pendant 7 jours, je vous dis bien les amis, 7 jours, j'avais ma tranche dans l'équipe, pas n'importe quel journal, l'équipe. Tous les jours, il y avait ma photo quand on parlait du FC Nantes. Donc à un moment donné, tu dis mais les mecs, ils ont pas. On a quand même gagné la coupe, le match de Coupe de France. Mathis Abline a fait un super match, il marque 2 buts. Mais tu mets son visage le dimanche matin. Donc là, en première, non, ça a été toujours moi. Bon, il y a pas de souci, je suis préparé à ça. Mais c'est surtout donc voilà, quand toi t'es convaincu, tu mets donc catégorique, tu dis Antoine Comboiré, donc de toute façon qu'il arrive avant la Coupe de France, il est plus entraîneur. Mais surtout après la trêve. Ben il est plus entraîneur du FC Nantes et puis je me pointe devant eux. Moi je peux pas, alors c'est impossible. Hein. Les gens ils peuvent. Quand t'es hypocrite, tu peux arriver et puis dire bon Antoine ça va, bonne année, tu vas bien. Donc et puis on reparle de foot. Non les gars, non ça peut pas se passer comme ça. Yes. Moi je vous demande pas donc voilà. Mais simplement on s'est trompé, on s'est planté. Et ben on écrit Antoine voilà donc il s'est passé ça. Donc FC Nantes tu racontes l'histoire parce qu'ils ont fait ça, c'était un feuilleton hein, toute la semaine.
Hein. Je rappelle d'ailleurs pour tous les auditeurs qui étaient peut-être partis en vacances, mais c'est vrai qu'à chaque fois, il y avait le plan A, le plan B, comment allait être remplacé Antoine Comboiré. Et c'est vrai que dans la plupart des médias, je précise, et c'est pas pour faire de la tambouille interne, que sur RMC, il y a eu les précautions oratoires de prise, mais c'est vrai que j'ai beaucoup lu, et on en parlait hier, j'ai beaucoup lu que c'était il ne sera plus l'entraîneur, et donc ça, tu ne l'as pas forcément apprécié. Christophe,
Antoine, tu penses que c'est uniquement la faute des journalistes, parce que ces infos circulaient énormément à Nantes, on dit même que le président et son fils ont rencontré d'autres entraîneurs qui auraient été susceptibles de te rencontrer.
Mais peu importe toi... ça, Christophe.
Pardon.
Peu importe. Les journalistes ont écrit.
Je pose la question à Antoine de savoir s'il en veut à la presse et s'il en veut pas aussi finalement à son président et à la famille Kita en général.
Alors, Christophe, mais c'est une superbe question parce que justement. Hier, donc, on a essayé de s'expliquer en off avec les journalistes, là, justement, les gens donc, du coin. Les journalistes Presse-Océan, Ouest-France et tout. Et c'est ce qu'ils me disent. Mais dit Antoine, mais toi. Mais j'ai dit, mais non, mais ils n'ont pas compris. C'est-à-dire que moi, je connais trop. Il y a un gars de l'équipe qui m'a traité de démago. Parce que justement, donc, je fais semblant de ne pas connaître donc, les méthodes, tout ça et tout. Mais j'ai même dit à Franck Kita, comme ça, vous allez le savoir. J'ai dit à Franck Kita, mais Franck, aujourd'hui, on est mal classé. On est en difficulté. Mais que toi, tu ailles chercher donc un entraîneur, c'est normal. Il rencontre 200 entraîneurs, mais ça fait partie de son métier de dirigeant, d'anticiper, de prévoir. Et moi, j'ai aucun souci là-dessus. J'ai dit simplement, et tant que je suis là, il m'a pas dit d'arrêter, je continue. Donc après, lui, il fait son travail de dirigeant avec le président Kita. Il rencontre les entraîneurs qui veulent. Mais moi, je suis là, donc je travaille, j'ai un contrat. Et puis surtout, j'adore mon travail. Par respect pour le club, le FC Nantes, et puis les joueurs, je fais mon boulot. Mais par contre, les médias, ce que je leur reproche, c'est qu'ils ont annoncé ils ont pas parlé au conditionnel, Christophe. Ils ont dit Antoine n'est plus l'entraîneur du FC Nantes. Ils ont même été jusqu'à dire pendant. Tu vas voir, je l'ai relevé le. Il fait semblant alors que tout est fini en coulisses. Quand tu dis ça, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il dit plus l'entraîneur. Donc c'est pour ça que moi je suis en colère après ça, mais pas le fait que les dirigeants. Mais pourquoi je vais reprocher aux dirigeants d'aller donc aller trouver d'autres entraîneurs alors que je suis en difficulté, le club 16e, je sais plus 14e, 15e, 16e.
Nique les infos sortent. En gros, t'es pas fâché que les infos sortent. Ça, tu connais le jeu évidemment de la presse et des relations.
La façon de les relater. Sans précaution oratoire,
comme
sans conditionnel et tout ça.
Pascal voulait intervenir et Julien aussi après. Pascal.
Oui, donc je voudrais souscrire à ce que dit Antoine. Parce qu'en fait, Christophe, c'est là où je voulais te répondre par rapport à ta question. Que les journalistes reprennent leurs sources, qui sont peut-être, je parle au conditionnel, peut-être des sources qui proviennent du club directement. Quand bien même ces sources viendraient du club, quand ils ont affirmé qu'Antoine n'était plus l'entraîneur du FC Nantes, quand ils se retrouvent en début d'année face à Antoine... La moindre des choses, c'est de dire « on s'est trompé ». Or, le problème des journalistes, vous prenez des décisions d'écrire, ça vous regarde, mais jamais vous êtes bousculé, parce que ces choses-là, ce qui est dit, ça a un impact sur les gens, ça a un impact sur Antoine, ça a un impact sur son staff, ça a un impact sur le vestiaire, et vous avez le droit, donc vous passez à autre chose, une prochaine connerie, vous allez dire une prochaine connerie, mais jamais, au grand jamais, vous allez dire, pardon, jamais, vous affirmez, parce que vous avez la bien-pensance, vous affirmez. Non.
C'est... Ouais. Alors, il allait un peu plus loin que ce que j'ai dit hier en défendant.
Tu crois?
Je suis d'accord sur le fond sur ce que dit Pascal. Ce que je disais hier, c'est que le conditionnel doit être employé, même s'ils ont les infos et qu'il y a une guerre entre les médias pour sortir quand on ait les infos, une information en première, etc.
C'est sûr. Le problème, c'est les médias qui se montrent le bourrichon les uns sur les autres. C'est-à-dire que quand tu as une info qui sort dans Ouest France, Presse Océan est obligé de sortir la même. L'équipe est obligée de suivre et donc du coup, tu vérifies pas forcément tout et tu arrives à une
Après, je rejoins Pascal. C'est quand la rentrée arrive et que Antoine est toujours là.
Ça oui. Ça.
Là, voilà. Moi,
Tu entretiens des bonnes relations avec la presse. Tous les journalistes qui te connaissent.
Mais d'ailleurs, tu sais quoi? Ils ont même dit, parce qu'ils sont arrivés, ils ont dit, mais Antoine, mais on t'aime bien, mais moi je m'en fous, vous êtes pas là pour m'aimer ou pas m'aimer. Mais on t'aime bien, on est content que tu sois là finalement. Mais bien sûr, mais écrivez-le que vous êtes trempé, vous êtes planté. Ouais. Moi, c'est ça, je demande
Antoine, simplement. J'ai une question, Antoine. Ouais. Parce que j'ai écouté ta conf et tu dis qu'il y a un seul journaliste qui s'est excusé. Dis-moi pourquoi, ou dis-moi pas, pourquoi tu l'as pas cité? Parce que tu avais peur qu'il se fasse reprendre de voler par sa corporation.
Tu sais quoi? Mais c'est bien parce que c'est une... Pascal, moi je l'ai dit là, comme ça devant tout le monde, pour bien sûr dire que là, vous êtes capable, parce qu'il y en a un qui l'a fait, un qui est capable de se remettre en question. Ben je vais te dire, quand je suis... Après la conf de presse, je suis parti, mon attaché de presse est venu, il dit, coach, vous savez ce qui s'est passé? Ben le mec il s'est fait arracher la tête par les autres.
Voilà, style, exactement.
Pourquoi tu as parlé? Pourquoi tu t'es excusé? Il fallait pas. Regarde, nous on est dans la merde maintenant. Voilà.
Ouais. Fred Weiss et Julien Benneteau.
Christophe, désolé, mais c'était ça.
Antoine, moi j'ai une question. Ça fait longtemps que tu fais ce métier. Tu fais très bien. Moi, je suis un grand fan et j'en ai parlé plusieurs fois déjà. Mais moi, je me pose la question. Un journaliste, c'est pas son métier de relater des faits, parce que quand ton président ou quelqu'un qui dirige ton club va s'adresser à un journaliste en disant on va se séparer d'Antoine, tu le savais en plus toi aussi parce que tu as même déclaré que tu avais dit à ton président, ça ne pose aucun problème qu'on sonde un petit peu le marché et qu'on aille voir s'il y a d'autres entraîneurs, donc tu savais que c'était une possibilité. Donc en fait, en quoi ils disent quelque chose qui n'est pas vrai?
Ils affirment qu'Antoine ne sera plus là
parce que c'était la volonté du club
Justement, regarde Fred, je vais tout te dire, comme ça je suis toujours cash.
Je sais.
Le président Kita, les deux, mais ils discutent en direct. les sources que les journalistes ont, c'est en direct avec le président et avec Franquita. Et ça, c'est pas un souci. Ils ont toujours fonctionné comme ça avant que j'étais là, avant que je sois là. Donc voilà, il n'y a pas de souci. Mais par contre, et eux, ils ont dit, certainement, ils ont dit, c'est fini, Antoine, il est plus là. Liquida, ils ont dû dire ça aux journalistes. Mais les journalistes, son travail à lui, c'est de dire, ben, tant qu'il est là, je parle au conditionnel. Parce que qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont retourné leur chemise. Ben, qu'est-ce que tu fais, journaliste? Toi, t'as écouté ce que le président a dit ou ce que Franquita a dit en disant donc, ben voilà, donc il est plus l'entraîneur du FC Nantes, il sera plus l'entraîneur. Mais ils ont décidé comme ça en parlant.
Mais oui, jamais ils sont venus voir. Tu peux entendre, Antoine, que quand un président va voir un journaliste en disant il ne sera plus l'entraîneur, que le journaliste soit ça. Dans l'obligation de relayer cette info.
Il le met, mais au conditionnel.
Encore une fois, c'est ensuite, le président qui lui dit. Le président, celui qui décide, celui qui a le choix, celui qui veut.
Oui, mais il le fait pas alors. Fred, il le fait pas. Comment on fait?
Parce que c'est ma question. Est-ce que c'est la faute du journaliste qui relaye une information ou c'est la faute de
l'information et il y a les faits?
Il doit prendre des précautions.
Non, mais je voudrais aller juste plus loin.
Pardon, parce qu'à la conférence de presse. À la conf de presse. Moi, je me retrouve pas face au président. Je sais ce qui trame le président ou les dirigeants. Il y a pas de souci. Moi, je me retrouve face à un journaliste qui a écrit donc une affirmation. Donc, tu vois, c'est lui qui, c'est face à lui que moi, le président. Donc, bien sûr qu'il a décidé de me virer. Puis finalement, il décide de changer d'avis. Ben, c'est son problème. C'est le problème du journaliste avec le président. Là, le journaliste, il doit donc frapper à la porte du président puis dire. Hey, tu m'as planté.
Juste Pascal, ce que veut dire Antoine, c'est que ce qu'il avait à dire à son président ou il l'a dit à son président et ce qu'il avait à dire aux journalistes, évidemment c'était micro-tendu, il l'a dit aux journalistes. Julien Beneteau et après Pascal, je reviens te voir.
Oui,
Julien.
Justement Antoine, je voudrais savoir et dépasser la querelle entre guillemets avec les journalistes, c'est revenir sur le plan professionnel, c'est pendant cette période, comment tu as fait pour continuer à travailler, comment tu fais pour faire passer des messages auprès de ton staff, auprès des joueurs, parce que tout le monde lit les choses, ils lisent que peut-être Contessao ou Bey ou je sais pas qui va peut-être te remplacer ou va certainement te remplacer, et toi malgré tout, donc t'es forcément au courant parce que tu nous dis que t'en as parlé avec le directeur et avec Franquita, mais comment tu arrives à continuer à faire ton travail et comment ton message est diffusé à la fois auprès de ton staff et à la fois auprès de tes joueurs dans cette période-là.
J'allais parler d'expérience, puis maintenant je suis blindé. Voilà, donc là, ça fait plus de 40 ans que je vis dans ce métier-là. J'adore mon travail. Mm-hmm. À partir de là, donc on se met dans une bulle. Il y a ce qui se dit, et puis en plus, t'es dans un club où, ici, donc il y a beaucoup de passages d'entraîneurs, quoi. Donc à partir de là, tu sais, donc, et puis t'as des joueurs là qui connaissent le contexte, qui connaissent la maison FC Nantes. Donc à partir de là, on travaille.
Et t'arrives à
ce qui est bien, c'est qu'on est resté. Hein? Puis moi, je comme je l'ai dit, je mets donc tout de côté, je me préserve.
Voilà,
j'essaie en tout cas, mais j'ai l'impression que ça marche. Hein. Je me préoccupe pas de l'extérieur. Là, c'est pour ça que j'ai dit, moi, je lis les médias parce que donc c'est très important dans mon travail. Mais tout ce qui parle du FC Nantes, je le fais pas. Donc c'est à chaque fois, donc j'ai un compte rendu donc qui est fait par l'attaché de presse. Mais voilà, j'évite donc de dire ce qui se passe sur Nantes. Mais surtout, donc j'incite les joueurs parce qu'en plus on est dans une mauvaise position. On serait donc bien classé. On pourrait donc s'attarder puis perdre de l'énergie donc à écouter et à lire ce qu'écrivent les médias. Non. Moi, je reste concentré sur mon travail. Et puis j'aime trop ça, quoi. Et puis surtout, j'aime bien la compétition, tout simplement.
Antoine, est-ce que cette histoire va avoir des conséquences sur tes relations prochaines avec la presse? Est-ce que tu vas te transformer désormais en une sorte de Luis Enrique qui, on le sait, déteste les journalistes, ou est-ce que tu vas redevenir le Antoine Comboiré qu'on adore?
Mais c'est là qu'on n'a pas compris. Moi, je suis allé face aux médias, mais j'étais pas en colère du tout, et je ne suis pas en colère. Là, j'ai entendu que c'était une guerre contre les médias, et puis que j'ai même entendu que j'allais donc faire la grève donc des camps de presse jusqu'à la fin de la saison. Mais c'est là que je vois donc les journalistes, leur façon de travailler, quoi. C'est pas sérieux, quoi. Voilà. Moi, j'ai jamais été en guerre avec journalistes, donc voilà. Je l'ai dit là, d'ailleurs, à la fin de la conférence, je vais jusqu'au bout de ma démarche. Là, sur cette journée-là, donc je ne parle pas aux médias. Et puis à partir de la semaine prochaine, ça y est, tout redevient normal. On repasse à autre chose.
Okay. Donc, je voulais ajouter un mot. Il y a de très bons journalistes. C'est la majorité. C'est ce que je pense réellement.
Bien sûr, t'as raison.
Mais je voudrais simplement dire une chose pour montrer l'effet pernicieux qu'ont ces journalistes-là. Celui qui a eu l'info que les dirigeants, je parle encore au conditionnel, auraient dit qu'Antoine allait être remplacé. Celui-ci, pour pas griller sa source, il balance pas une fois que Antoine est toujours présent entraîneur, il dit pas clairement, ce sont les dirigeants nantais qui m'ont dit qu'Antoine allait être remplacé. Non, il peut pas dire ça.
Bah, parce que si il dit, c'est normal.
S'il dit ça, il balance pas ses sources.
La règle du métier,
c'est la règle, je suis désolé de te dire que c'est un tantinet malhonnête. Mais les règles, je les connais.
Colère, plus remonté contre les journalistes qu'Antoine Lelay. Tu as souffert toi aussi dans ta carrière
je peux t'en citer plein. Je suis comme tous les autres, pas plus, pas moins. Quand on est entraîneur, on est pris dans cette machine où, comme c'est médiatisé, il faut qu'on dise tout et n'importe quoi. C'est comme ça. Et malheureusement, plus tu réponds, plus tu te justifies, plus l'opinion publique a tendance à croire que ce que disent les journalistes, c'est la vérité. Donc t'es obligé de te taire, de pas lire ce qui se dit sur toi. Je sais pas si Antoine fait comme ça, il vient de le dire. Moi, je sais que quand je suis en exercice, je ne lis pas ce qui est dit sur moi. Mais malheureusement, j'ai une famille. Ouais. Mes enfants, mes petits-enfants, ils entendent, ils écoutent. Et ça les impacte. Mais ça, ils en ont rien à foutre.
Au-delà,
ceux qui écrivent.
Au-delà, évidemment, que
pour
l'on.
Finir ce que dit Pascal, c'est moi là, ce que je voulais, c'est voilà une petite remise en question, quoi. Tu vois, de dire voilà, mea culpa, et puis voilà, on s'est trompé, et puis on passe à autre chose, quoi. Mais ils savent pas le faire. Hein. Et là, hier, on a essayé de s'expliquer, mais tous unanimes, ils ne veulent pas comprendre. J'ai dit bon, ben dans ces cas-là, vous restez campés sur vos positions et moi sur les miennes. Et puis de toute façon, on trouvera pas d'accord. Et puis la semaine prochaine, on passera à autre chose. Mais voilà, je voulais marquer le coup, tout simplement.
Je voulais
sans pour autant faire le buzz, voilà, surtout pas.
Je voulais parler de quelque chose, Antoine. On se connaît, j'en parlais hier dans l'émission, donc j'ai compris la logique. Mais il y a aussi une autre logique où on n'en a jamais parlé tous les deux. Mais je trouve important de le dire parce que parfois ça peut être soit une déformation professionnelle, soit c'est plutôt intéressant pour les journalistes. Mais quand il y a un sujet chaud dans les médias, alors ça peut être Mbappé, le calendrier, les inondations à Valence, la politique, tout ça. Et ben, souvent dans les rédactions, il y a les bons clients. Et Antoine fait partie de ces bons clients à qui on pose toujours les questions parce qu'on sait qu'on va avoir une bonne réponse qui sera réutilisée. On vous a fait un petit pêle-mêle depuis le début de la saison de toutes les questions qui n'ont rien à voir avec Nantes et qui sont posées à Antoine. Et après, j'ai une question à te poser, Antoine.
Je sais simplement qu'il a promis 1 milliard, c'est ça ? Il avait dit 1 milliard et aujourd'hui, on n'a même pas la moitié. Donc voilà. Si c'est un entraîneur, je vais aller au bout. Hein. Si c'est un entraîneur, je vais dire, c'est carton rouge. Il n'y a même pas de discussion. Après ça, c'est mon avis. Hein. Et après, on va me dire que j'ai une dent contre les Texiers. Donc voilà, je vous vois dire, hein, j'anticipe. Si c'est mon défenseur, il mérite un rouge. On s'attendait à ce qu'il souffre en Ligue des Champions. Ils sont 5e, c'est fabuleux, quoi. Je crois que c'est un des plus grands exploits donc de l'ère moderne. Là. Quand je rentre chez moi, je sais couper. Mais il y a des gens plus malheureux que moi, hein, plus malheureux que nous, quoi. Moi, j'adore mon métier, je suis passionné par ce que je fais. Et aujourd'hui, bien sûr que, je ne peux pas vous mentir, hein, peut-être que je dors un peu moins bien, tout ça et tout. Mais quand j'arrive à la maison, j'essaie de couper, quoi.
Voilà, à chaque fois qu'il y a un sujet dans l'actualité, en tout cas, tu es interrogé, Antoine, en conférence de presse. Et on a régulièrement, même très régulièrement, une très bonne sortie. Est-ce que toi qui joues le jeu, justement, de ces conférences de presse, alors que d'autres envoient bouler les journalistes, est-ce que ça aussi, ça participe du fait que tu te dises, tu t'es senti un peu trahi?
Ah non, du tout. Ah, moi, j'attends rien, moi, de la part des journalistes. Hein. Et quand je fais ça, c'est pas pour gagner donc la confiance ou l'amitié.
Non, bien sûr, mais quand tu joues le jeu en conférence de presse, tu te dis voilà, tu t'attends pas à ce qu'il soit plus sympa avec toi. C'est pas ça le sens de ma question.
Mais complètement, tu te dis
on joue le jeu chacun de notre côté, quoi. Ouais. Donc on est juste. C'est ça que je veux dire.
Mais surtout, Jean-Christophe, moi, je respecte les journalistes. C'est pour ça que depuis que j'ai commencé mon métier, je n'ai jamais raté une conférence de presse. Par respect pour les gens qui sont en face de moi. Ils travaillent, donc je viens. Je suis pas content, je vais vous donner un exemple. J'étais entraîneur du PSG, on fait un classico à domicile. à domicile, PSG-Marseille. On perd 3-0. Il n'y a pas un gars, pas un joueur qui voulait aller à la conférence de presse. Ben moi, j'y vais. Puis je m'explique après avec mes mots, des fois avec mes conneries. Mais ce sont les miennes donc de phrases. Donc voilà. Mais j'ai toujours été comme ça. Alors bien sûr, je fais attention. J'essaie de pas blesser les gens. Mais je dis ce que je pense à ma façon, mais je le dis. Voilà.
Bon, revenons sur le sportif. Un dernier mot avec toi, cher Antoine. Merci de nous avoir justement donné du temps ce matin pour expliquer aussi à tous les auditeurs ce qui s'est passé cette semaine. La semaine prochaine, il y a eu Lille là, hier avec ce match nul. Il y a Monaco la semaine prochaine. Comment tu vois là ce mois de janvier ?
Ah, c'est un mois de janvier très très intéressant. C'est bien le mot que j'emploie. Puis je veux dire même on est chanceux. Voilà, donc on n'a pas à jouer, Pascal peut-être me dira le contraire, mais quand tu joues Le Havre, tu joues Montpellier, c'est deux fois plus compliqué. Là, on a une série de matchs de Ligue des Champions. Là, on a joué Lille, on va jouer Monaco. Mercredi, on joue en Coupe de France contre Brest, qui fait la Ligue des Champions aussi. Donc, on a une série de matchs de Ligue des Champions. Là. Il faut qu'on soit au niveau. Donc là, on n'est pas là en train de se dire ça va être compliqué, mais on a une chance fantastique de jouer ces équipes-là et montrant qu'on est capable sur un mois, trois semaines, être capable de rivaliser avec ces équipes. Et voilà, c'est excitant. Moi, c'est le mot que j'ai employé à mes joueurs dans la conf de presse, dans la causerie là. Et les gars, mais on a une chance fantastique. On est là, on peut marquer les esprits, on peut donc frapper un grand coup. Et puis surtout, donc on a aucune pression face à ces équipes.
Bon, en tout cas, parfois, si tu ne te projettes pas au-delà de février, de mars, et après, il y a Saint-Etienne et il y a Lyon encore au calendrier de Nantes. Donc, ça va être un mois de janvier passionnant. Et une nouvelle fois, merci beaucoup, Antoine, d'être venu nous voir. Oui.
Tu as vu, je l'ai dit d'ailleurs, j'ai dit donc hier, j'ai dit voilà, si je suis encore l'entraîneur du FC Nantes vendredi, contre Monaco, je viendrai et puis je m'adresserai à vous comme si de rien n'était. On passe à autre chose.
On va te revoir en conférence de presse pour notre plus grand plaisir. Voilà. Merci d'avoir été avec nous. Encore une très très
belle
année.
Merci à vous.
Salut Pascal,
salut Julien, salut Antoine.
Salut Antoine.
Salut à vous.
Merci d'avoir été avec nous.
Tu sais, si un jour ça se passe mal, t'as le couvert et le gîte au Grand Prix du Sport.
Mais j'ai tout. Si je veux faire un basket, il y a Fred. Et puis si je veux aller faire une partie de golf, je sais qu'il y a Julien.
C'est quand tu veux.
Ah, il vaut mieux jouer avec Julien qu'avec JC, de toute manière.
Ouais, c'est ça.
Oui, il le sait parfaitement. Merci beaucoup, Antoine.
Salut,
et à
Thomas.
Bientôt.
Salut.
Et évidemment, une très belle deuxième partie de saison avec le FC Nantes. 10h31, on se retrouve dans quelques instants pour vous parler de l'affaire Samba. Brice Samba, le gardien de Lens, toujours à Lens, mais peut-être à Rennes. Mais pour l'instant, c'est pas fait. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h34, Christophe Cessieux, Fred Veil, Julien Beneteau, Pascal Duprat. Voici le casting des grandes gueules du sport ce matin. Vous entendez les petites clochettes, la foule en délire. Ça se passe à Kranjskagora. C'est le slalom dame avec Léna Marjac. Salut Léna.
Salut JC, salut à tous.
Où en est-on ?
Eh bien, on a une première française qui vient de s'élancer à l'instant, Chiara Pogno. Quelques petites erreurs sur cette manche. Et donc, elle se classe 16e provisoire pour l'instant, Chiara Pogno. Elles seront en tout 6 françaises. La prochaine que l'on retrouvera, ce sera Marie Lamure, suivie de Clarisse Brèche, puis Marion Chevrier, Dorian Escanet et Caitlin McFerlane. Toutes ces françaises, eh bien, vont essayer d'aller chercher au moins une qualification en seconde manche. Ça serait beau pour certaines. Ce serait le meilleur résultat de leur carrière en slalom parce qu'elles sont jeunes. Elles ont toutes entre 22 et 25 ans, ces françaises. C'est un petit peu le renouveau de cette équipe de France de technique. Donc voilà, pour l'instant, Chiara Pogno qui est passée 16e provisoire. Et donc, il n'y a pas une, mais deux femmes en tête de cette première manche. On retrouve la Croate Zrinka Ljutic, 20 ans, vainqueur le week-end dernier de sa première Coupe du Monde au slalom de Zemmering. Et donc, dans le même temps qu'elle, en 50 secondes 82, on retrouve la Suissesse Wendy Holdener. Voilà, la prochaine française, c'est Marie Lamure.
RMC, le dossier des GG.
Après le transfert avorté de Thomas Hurtel à Barcelone, nous en parlions hier, un autre revirement de situation spectaculaire a eu lieu ce week-end dans un autre sport, pour d'autres raisons. Le gardien de but du RC Lens, Brice Samba, devait signer au Stade Rennais, tout était ficelé. Finalement, les sang et or sont revenus pour l'instant sur leur décision. Et le transfert de l'international français ne se fait pas pour des raisons assez obscures. On va tenter d'y voir plus clair avec notre correspondant dans le Nord, Jean Baumel. Salut Jean.
Bonjour JC, bonjour les grandes gueules.
Alors explique-nous la situation, à quoi joue exactement le RC Lens.
D'abord, il faut revenir à l'interview de Brice Samba chez nos confrères de l'équipe qui taclait gentiment son président Joseph Ougrulian sur sa communication l'été dernier concernant les ambitions du club lensois revues à la baisse. Ensuite, le gardien Saint-Yor a signifié à son entraîneur Will Steele qu'il voulait partir dès cet hiver et le coach lensois prend acte de sa décision.
J'ai appris que Brice voulait quitter le club pendant les vacances. C'est forcément embêtant parce que c'est le capitaine du club, c'est un très très bon gardien. Garder un joueur qui ne veut plus être là, ben, c'est pas forcément une bonne chose pour un vestiaire. Et Hervé jouera dans les buts jusqu'à nouvel ordre. Il y a forcément un processus de recrutement qui est en place. Il va forcément être remplacé. Tout le monde a droit à son opinion. Je savais qu'il y avait des choses qui allaient changer. Je savais qu'il y avait des joueurs qui allaient partir. Est-ce que c'est une situation idéale? Non, forcément. C'est pas le cas. Il a son avis, il a son opinion sur certaines choses que je respecte. Mais on avance, on va continuer. On va trouver d'autres solutions et on va continuer à gagner des matchs. Parce que c'est pour ça que je suis venu ici. Je suis pas du tout étonné et on s'y attendait à ce qu'il, enfin, je pense que le monde entier s'attendait à ce qu'il y ait de l'intérêt pour lui et il y en aura sûrement. À ce stade-ci, ce ne sont encore que des rumeurs. Que ce soit des ailiers ou des attaquants, il y a des profils qui sont recherchés. Il n'y a pas encore beaucoup, beaucoup de mouvements sur le mercato. Donc, les choses se mettent en place, les choses vont bouger. Mais c'est sûr qu'il y a un travail qui est fait.
Alors la volonté de partir du capitaine Lensois et l'un des chouchous de Bollaert a surpris ses coéquipiers, comme l'exprime le milieu Lensois, Angelo Fulgini.
C'est une grosse perte parce que voilà, Brice est un des meilleurs gardiens du monde. On a confiance au club pour le remplacer. Il faut qu'on accepte et qu'on continue à faire ce qu'on sait de le mieux faire, de continuer à jouer au foot et ça passera. Après, il nous a pas prévenu avant. Peut-être qu'il a aussi appris pendant les vacances aussi. On ne sait pas comment s'est passé le dossier. Je ne suis pas dans sa tête. Il faut respecter son choix. C'est parti d'une carrière d'un footballeur. Il faut qu'on regarde de l'avant et qu'on fasse confiance aux joueurs qu'on a ici.
Alors son transfert à Rennes, présidé par l'ancien DG de Lens, Arnaud Pouille, semblait bien parti avec une transaction autour de 15 millions d'euros et un contrat revu à la hausse jusqu'en 2029. Mais jeudi soir, les négociations sont arrivées au point mort. On sait que les relations entre le président lensois, Joseph Ogourlian, et Arnaud Pouille sont froides. On apprend aussi que Brice Samba aimerait emmener avec lui l'entraîneur des gardiens lensois, Hervé Sekli. Sportivement, on peut se poser la question de l'intérêt pour Samba de partir à Rennes, car les Bretons pourraient se retrouver à 10 points de Lens cet après-midi si Lens bat Toulouse. Vendredi soir à Nice, on l'a vu, la prestation de Steve Mandanda n'a pas rassuré le club breton avant la réception de l'OM samedi prochain au Roazhon Park. Une situation qui pourrait relancer les négociations.
Merci beaucoup Jean Baumel pour toutes ces précisions. Tu restes avec nous évidemment pour ce débat, car on a envie d'en savoir plus. Si tu as d'autres informations, évidemment tu es là avec nous dans les grandes gueules du sport. Quel est votre point de vue sur cette situation entre Brice Samba et le Stade Rennais sur ce transfert une nouvelle fois qui pourrait ne pas se faire à la dernière minute parce que les dirigeants finalement ont changé d'avis. Quel est votre point de vue, Julien Beneteau?
Moi je trouve que c'est un petit peu décevant de la part de Lens. Quand tu nous as posé la question, c'est est-ce qu'ils sont ridicules? Non, mais j'ai lu quelque chose comme quoi ils seraient même prêts à pas faire jouer.
Ouais, ouais.
À le laisser sur le banc jusqu'à la fin de la saison. Là, il serait ridicule. Parce qu'en plus, ce serait perdant-perdant à tous les niveaux.
Ce qui n'est pas le cas, hein. De mon côté, en suivant bien le dossier, c'est pas l'objectif.
C'est pas l'objectif. Non, mais je pense qu'à terme, ils vont trouver une solution. Parce que l'entraîneur l'a dit, c'est dur de retenir un joueur contre son gré. Surtout, c'est Brice Samba, c'est une figure maintenant du RC Lens. C'est le capitaine, c'est un très très bon gardien.
C'est grâce aussi, avec son passage au RC Lens, qu'il est devenu international.
Bien sûr. Donc, c'est surprenant qu'il veuille partir. Parce que, effectivement, je suis d'accord, la plus-value sportive entre de passer de Lens à Rennes, pour l'instant, elle n'est pas si évidente. Alors, est-ce qu'il gagnera plus d'argent à Rennes, peut-être? Est-ce que.
C'est sûr.
Est-ce qu'il va retrouver certains dirigeants qu'il a côtoyés à Lens et travailler avec eux? Sans doute aussi.
Après, le projet de Lens. Excuse-moi, mais j'ai cru comprendre que le projet de Lens était en baisse un petit peu. Oui. Et que, de toute façon, il était obligé de vendre pour 40 millions avant fin janvier. C'est ça?
Oui. Alors, ils ont contracté un emprunt, pour être bien clair, pour finir la saison, mais ils ont l'objectif de racheter le Stade Bollaert avant juin. Donc, on fait très attention parce que en post-Ligue des Champions, des transferts à 30 millions d'euros pour Wailly, c'est pas le Racing Club de Lens. Tu peux pas suivre la cadence d'un club comme Rennes, comme Lyon, comme Marseille. Lens n'est pas taillé pour des transferts et des salaires astronomiques. Donc, il y a un moment, il a fallu ralentir plus les droits télé. Hein. On l'a vu avec Joseph Ogourlian, c'était tendu lors des droits TV, notamment avec certains présidents et puis aussi le président de la Ligue. Il a senti que, attention, il y a un vrai danger économique et il a mis un coup de frein. Peut-être assez brutal en donnant des chiffres comme ça, parce qu'elle a même parlé de 111 millions d'euros de ventes l'été dernier. Ils ont revendu Wailly, mais globalement, on fait attention sans être sans manque d'ambition.
Donc finalement, ça a un sens que Samba aille à Rennes, ou en tous les cas,
c'est un peu le timing. C'est le timing qui est peut-être pas très bon. Je pense que il va pas pouvoir dire au revoir à ses supporters s'il part. C'est voilà, c'était pas le poste numéro un. Il faisait partie comme tout le monde du lot des joueurs qui sont bien payés à Lens, qui est plus value. Ils l'ont acheté 5, ils vont le revendre si c'est bon, ça sera autour de 15, donc il y aura une plus-value. Mais c'était pas la priorité, c'était pas de que Brice Samba quitte le Racing Club de Lens.
Pascal, ton regard sur cette affaire?
En fait, il faut prendre ça avec mesure, parce que je suis de ceux qui pensent que ce transfert va se réaliser malgré tout. Donc il faut prendre ça avec mesure, c'est un contretemps. Et là encore une fois, pour rebondir sur le débat précédent, il faut vérifier les infos. Il y a peut-être d'autres choses que l'on ne sait pas. Tu l'as dit, Jean, tout à l'heure, la volonté de Samba ou des dirigeants rennais de prendre Hervé Sekli, son préparateur de gardien, c'est peut-être aussi ce qui a heurté les dirigeants lensois. Le fait aussi qu'ils sont sur leur défenseur central...
Jonathan Gradi.
Medina ou Grady, le fait que Rennes veuille aussi tenter d'attirer ces joueurs-là.
Bon, ils veulent racheter Lens, quoi.
Peut-être que ça a contribué à crisper les relations, d'autant que, comme vous le savez, à Rennes, c'est un ancien dirigeant de Lens qui est aux commandes.
C'est
Pouille. Donc, si vous voulez, il n'y a qu'une chose qui est certaine, c'est qu'à partir du moment où un joueur exprime le désir de partir, quand vous retenez le joueur, vous perdez le joueur. Ses performances vont être moins bonnes et vous perdez l'argent. Donc c'est pour ça que ça me fait dire que Lens est suffisamment rompu à ce métier-là, à cette corporation-là, pour accepter dans les jours futurs le transfert de Samba.
Ouais, mais ils vont arrêter la vexation et puis ils vont finalement faire le transfert.
Hein. Ouais, je pense qu'ils sont en position de force. La raison va l'emporter.
Ouais, mais perdre la tête d'affiche, un gardien international et renforcer un concurrent direct, c'est pas un peu dur quand même pour.
Mais en fait, pour vendre, quand tu as besoin d'argent. Alors encore une fois, je parle au conditionnel. Hein. Je n'ai pas toutes les informations. Je suis pas dirigeant du RC Lens. Tu t'attaches à faire partir les joueurs qui sont bankable et, comme l'a très bien dit Jean, ceux avec lesquels tu vas réaliser une plus-value. Et Samba s'inscrit dans cette liste de joueurs-là à Lens qui peut permettre au club de réaliser une plus-value.
Et c'est assez rare sur un gardien aussi de réaliser une plus-value. Merci beaucoup Jean Baumel d'avoir été avec nous ce matin, de nous avoir parlé de ce transfert qui pourrait voir le jour, qui pourrait capoter le transfert de Brice Samba. C'était l'une des informations de cette fin de semaine. On se retrouve dans quelques instants pour les GG contre-attaque. Et alors là, il y a une GG qui a atomisé les autres. Mais laquelle? Avec son débat, on m'a proposé du Yabusele, le joueur de basket, du Mossala, des fléchettes ou encore un hommage aux descendeurs. A tout de suite sur RMC pour la réponse.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h47 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Christophe Cessieux, Julien Beneteau, Pascal Duprat, Fred Weiss. Merci infiniment de votre fidélité à partir de 11h. Fred, nous allons parler de basket, de Victor Wembanyama, qui réalise une première partie de saison absolument exceptionnelle. Il vient de disputer son 100e match et il bat tous les records pour l'instant. Il est en avance sur tous les plus grands. Est-ce qu'il est déjà entré dans l'histoire? Vous n'êtes pas d'accord, les GG? Ce sera notre débat à partir de 11h. Mais tout de suite, les GG, c'est à vous de jouer.
RMC, les GG contre-attaque.
Il y a une heure, vous avez proposé 4 débats, mes GG. J'ai eu un hommage aux descendeurs. Après, c'est vrai, les propos en quasi-direct hier du médecin de l'équipe de France de la Fédération Française de Ski qui nous parlait de l'état de santé de Cyprien Sarrazin. Malheureusement que 13% pour toi, mon cher Christophe.
Ça y est, je sens bien 2025, c'est l'année de la fin. Je suis sur la pente descendante. Je ne trouve plus aucune personne qui veut suivre mes sujets. Même Pascal Duprat, qui pourtant est un haut savoyard, me met la fléchette dans le dos avec ce sujet.
Il ne veut pas
entendre parler des descendeurs. Et ça se dit homme de la montagne. Je suis très déçu, Pascal.
Je comprends que tu sois très déçu.
Non, mais j'ai pas voté. Arrête de m'attaquer.
Attendez, 14%. Tu viens de gagner un petit pourcentage.
Non, mais
possible que demain, on fasse ton débat.
Je vous annonce, c'était ma dernière contre-attaque. Je ne présenterai plus le sujet aux auditeurs.
Ok, très bien.
Je suis très mauvais joueur, il faut aussi le savoir.
Oui, on l'a bien vu. Troisième place. T'es derrière le basket. Il y a Boussélé qui s'en va. Avec l'équipe de France de basket. 17%.
Ça ne me dérange pas parce que je sais que juste après, il y aura un grand sujet basket.
Ouais, donc c'est
pas
très grave. C'est quand même une victoire de ne pas terminer dernier.
Voilà, c'est ça. Pas de Christophe surtout.
Bravo. Mo Salah, est-ce que ça doit devenir une priorité du Paris Saint-Germain? 28% pour toi, Julien Beneteau. Encore aucune victoire dans les jugés contre-attaques.
Toujours aucune victoire dans la contre-attaque. Voilà, je vais vous faire une raison.
Ne dites pas que j'ai gagné.
Mais si, c'est à la bonne.
41% pour les fléchettes. Est-ce un vrai sport? Il y a eu les championnats du monde. C'était diffusé sur la chaîne L'Équipe. Et écoutez, ça donnait ça.
C'est dire les. The ascension is complete. Luke Humphries is the greatest
darting force on the planet right now. Pascal, 41%, parle-nous des fléchettes. Luke Winkler, le Britannique, a seulement 17 ans, est devenu il y a quelques jours champion du monde. C'est une véritable consécration et c'est un sport aussi que l'on découvre depuis quelques mois, depuis quelques années. Pascal. Sport.
Je suis heureux comme un gamin, vous ne pouvez pas savoir. Donc en fait, j'ai lu comme tout le monde, j'ai découvert, j'ai regardé ce phénomène qui a 17 ans, qui s'appelle Luke Littler, qui est anglais, et qui est devenu le plus jeune champion du monde de la discipline des fléchettes, et qui crée le buzz, qui est une star incroyable en Angleterre. Il faut savoir que ce gamin, il a gagné rien que par ce titre, je crois que c'est quelque chose comme 600 000 euros sur le coup, ou quelque chose comme ça, et qu'en 2014, c'est 1,4 million d'euros qu'il a glané au gré de ses succès dans la discipline. Donc, en fait, j'ai voulu lire un peu plus qui était ce jeune. Ben, ce jeune, c'est un gamin comme tout le monde. Il se lève à midi, c'est ce qu'il dit, il va continuer à se lever à midi. Il bouffe des hamburgers, il boit des sodas, et il veut rien changer à sa vie.
Il n'a pas une tête de sportif de haut niveau quand tu le vois.
Rien changer à sa vie. Et moi, je me dis, je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais pour moi, c'est pas un sportif. Mais ai-je raison? C'est ça la question que je voudrais poser à mes collègues. Et surtout, de cette question-là, je voudrais débattre. Est-ce que vous considérez que c'est un sportif? Moi, non, pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Parce que pour moi, un sportif, eh bien, il se dépense athlétiquement. Il y a la notion d'effort physique. Il y a la réflexion, il doit l'avoir. Parce que il y a la dextérité, il l'a également. Parce que pour envoyer la fléchette en plein centre, il faut avoir un brin de qualité et un brin d'adresse. Donc, tout ceci, ça me fait rire parce qu'on va parler de ça. Je suis heureux qu'on débatte ensemble. Ouais. Et je suis curieux d'entendre Christophe qui se moquait de moi quand je parlais de ça.
Il y a des disciplines qui sont aux Jeux Olympiques qui présentent les mêmes caractéristiques que les fléchettes.
Oui,
hein.
C'est la différence, le
notion entre discipline et sport.
Ouais, les échecs peuvent être considérés comme du sport. Le bridge, le poker, l'e-sport aussi peut être considéré comme du sport.
Oui, c'est vrai que l'e-sport,
c'est La frontière
est ténue, ça on le sait, mais pour vous, parce que c'est du sport,
parce que c'est une compétition, parce qu'il y a des règles, parce qu'il y a un vainqueur et tout, c'est tout organisé comme une, il y a une performance.
Il y a une performance. Donc pour toi aussi, intimement, c'est du sport, Julien.
J'entends ce que veut dire Pascal. Dans la notion de sport, pour lui, il faut qu'il ait une dépense athlétique, énergétique, etc.
Et puis il y a une préparation particulière aussi pour un sportif. C'est-à-dire qu'il doit avoir un régime strict, qu'il doit faire attention à ce qu'il mange, il doit se préparer la veille. En fait,
qu'il fait pas un marathon tous les matins.
Je suis d'accord, mais le fait de, il se dit, je vais rien changer à ma vie. Un vrai sportif, il change quelque chose à sa vie. Il a un rythme différent. Il se prépare différemment. Là, se lever à midi, manger n'importe quoi, ne pas se préparer physiquement.
Vous êtes cheval là-dessus.
Ben oui, mais c'est comme les échecs. Et pourtant, moi, je suis un joueur d'échecs invétéré. Je considère pas que jouer aux échecs soit un sport, en fait. Sauf quand on a dit échecs et boxe. Mais ça, c'est différent.
C'est un sport du cerveau, en fait.
Mais est-ce que pour autant, t'as besoin de physiquement être prêt pour jouer aux échecs? Non, réellement.
Bien sûr, il faut de la patience, il faut de l'attente.
Une fois, tu parles à quelqu'un qui était dans un club d'échecs pendant de nombreuses années.
Mais enfin, tu dois quand même bien dormir, avoir les idées claires quand tu vas discuter.
Oui, mais lui, il est en train d'échecs sur les échecs.
Lui, il picole, il bouffe des hamburgers, il se réveille à midi.
Donc, est-ce que tu considères que c'est du sport, ça? Est-ce que tu considères que c'est un sportif, quelqu'un qui n'a pas une préparation spécifique à son événement?
Quand tu vois les compétitions, Luke Littler, encore, c'est le plus mince. Mais il y a des gros patapoufs. Il y a des gros patapoufs qui s'envoient.
Il est énorme surpoids pour un ado de 17 ans, Luke Littler.
Et ça ne va pas s'arranger parce que quand tu vois ses copains qui ont 30 ans, c'est des barriques.
Exactement. Non, c'est vrai que c'est. moi, il y a une performance, il y a.
Il y a le côté stratégique, moi, que j'apprécie beaucoup, bien sûr, même.
Il y a la stratégie, il y a un combat.
C'est génial, hein.
Il y a aussi un combat, comment dire.
Un duel
mental.
Oui,
entre les deux, parce qu'il y a un peu, c'est pas du corps à corps, mais parfois, les mecs, ils se toise du regard.
Bah, tu mets la pression sur l'autre.
Exactement.
Enfin,
en fonction, il y a des momentum à gérer en fonction de si t'es devant, si t'es derrière. Il y a la notion de break comme au tennis quand c'est pas toi qui commence à lancer la fléchette dans la manche, etc. Donc il y a une partie stratégique, il y a une partie donc ça.
Il y a une partie de préparation mentale qui ressemble au sport. Oui, mais il y a pas d'effort physique.
Il y a pas d'effort physique, mais le tir à l'arc, le tir au pistolet à 10 mètres aux Jeux Olympiques, il y a aucun effort physique et ils sont aux Jeux Olympiques. Donc la pétanque, c'est une performance aussi exceptionnelle. De plus en plus, les mecs, les jeunes à la pétanque sont un peu plus fit que ce qui se faisait il y a 10, 15 ans, 20 ans. Il n'y a pas de dépense physique, mais ils ont une performance, une dextérité, une réflexion.
Tu as regardé les tireurs à l'arc, comment ils sont physiquement ? Ils sont plutôt très fit quand même. Ils sont quand même plutôt très
fit. On les a reçus à l'Alpe d'Huez, les archers. C'est pas non plus les plus grands.
C'est marrant. Pour vous, on parle sport de haut niveau. Il faut être un Golgoth avec les tablettes de chocolat. Et il faut avoir une dépense physique pour faire un sport. Je veux dire, on aime un sport où.
Oui, le golf, c'est pareil.
Non, mais où l'activité physique ne se voit pas. Alors que pourtant, on le sait tous les deux, quand tu joues un 18 trous, à la fin, tu es claqué, tu as marché.
Oui, mais il y a quand même une notion athlétique aussi.
Non, mais il y a une notion athlétique qui est évidente, mais qui ne se voit pas forcément à la télé. Souvent, le réflexe qu'on dit, c'est ouais, ok, les bedons. Autant de 50 ans qui vont jouer au golf alors que c'est une vraie préparation.
N'importe qui ne peut pas marcher autant qu'un golfeur. Concrètement, c'est éprouvant physiquement. Vraiment. Là, c'est
pas grand danger.
Non, mais n'importe qui n'est pas capable de le faire. N'importe qui peut jouer au fléchette.
Vous reliez la dépense physique, c'est-à-dire la quantité de sueur à.
Non, pas forcément. Pas
toi, mais j'ai l'impression que c'est le cas pour vous. Alors qu'il y a d'autres aptitudes pour faire des fléchettes. Alors oui, il ne faut pas courir un 10 km, mais pour faire des fléchettes, il faut. Pascal l'a rappelé, il faut une dextérité, il faut un mental, il faut une stratégie. Enfin, ça développe d'autres qualités, Pascal.
Oui, cela dit, est-ce que si ce garçon se préparait athlétiquement, est-ce qu'il serait aussi performant ? Peut-être pas.
Oui, exactement.
Parce que son sport ne
le rendrait pas plus.
Puis c'est un gamin de 17 ans qui vit heureusement comme les autres.
Le golf a vraiment progressé en termes techniques depuis que les mecs font attention à eux. Parce que c'est pas une légende seulement de voir des mecs de 50 ans en embonpoint jouer au golf. Ça a été le cas pendant des années. Et effectivement, Tu vois des athlètes de haut niveau.
T'es un surathlète. Il faut se rappeler quand même que
c'est
un surathlète.
Mais on peut pas cette dynamique d'ailleurs.
C'est depuis.
Absolue. Ouais.
On peut pas définir un sportif par rapport à l'hygiène de vie qu'il doit avoir en fonction de sa discipline.
Ni par rapport à son gabarit.
Parce que regardez, personne ne remet en cause le volleyball. C'est un sport. Je peux vous dire que les volleyeurs et ceux qui sont champions olympiques deux fois de suite, c'est des athlètes, mais ils ont pas la même hygiène de vie que ceux qui font de l'aviron ou du cyclisme, etc. Donc dans ces cas-là, parce que leur sport leur demande pas forcément.
Ouais, ils ont une certaine hygiène de vie quand même, plus que le lambda et le kidam normal en fait.
Plus que le glitter, quoi, tu veux dire.
Bah oui.
Oui, plus que le glitter, oui. Par rapport à l'ensemble des sportifs qui sont au village olympique.
La flèche, elle pèse quand même 19 grammes. C'est difficile à porter. Hein.
Bon, en tout cas, c'était très intéressant ce débat et ça, c'est vrai, ça a beaucoup fait parler durant les fêtes de Noël. C'est une case
l'engouement.
Il y a tous les ans de sport et c'est vrai que on se met à regarder ça et c'est hypnotique, c'est captivant en tout cas.
C'est très sympa à pratiquer parce que moi j'ai joué avec des copains cet été. C'est régalé. J'ai complètement raté. Je rate à chaque fois la cible, mais c'est pas grave.
C'est pas grave. La prochaine fois, ça marchera bien.
Un petit coup de pouce. La prochaine fois, je vous fais un sujet sur le curling.
Avec grand plaisir. Merci Pascal.
Pareil.
Grand Cagora avec Moussa Landam. Où en sont, écoutez-moi les copains, où en sont nos Françaises, Léna Marjac?
Eh ben, on a une très belle 10e place de la Française Marie Lamure, la skieuse de Courchevel, âgée de 23 ans. Donc, est 10e. Elle verra la seconde manche tout à l'heure à partir de 13h. Elle devrait être rejointe au moins par deux autres Françaises. Chiara Pogno, 19e provisoire. Et Clarisse Brèche, 23e provisoire. Elles sont toutes les deux en ballotage favorable. Donc, pour être en seconde manche tout à l'heure, trois Françaises encore qui devront prendre le départ. Et le duo tête n'a pas bougé. Zrinka Lucic et Wendy Holdener sont en tête toutes les deux avec le même temps.
Merci beaucoup, Léna. 10h58. On se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Victor Wembanyama est-il déjà entré dans l'histoire de son sport? Il a disputé son 100e match de NBA. Pour l'instant, il est en avance sur tous les autres. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
les grandes gueules du sport.